Le Maghreb décrypté avec Hasnia Abidi.
Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Orient. Avec vous, Nadia Bencher, pour ce nouvel épisode du Maghreb décrypté consacré au second volet du processus de Barcelone. Dans la première partie, on est revenu sur la naissance de ce processus en 1995, un moment d'espoir où l'Union européenne et 12 pays du sud et de l'est de la Méditerranée, dont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, ont posé les bases d'un partenariat présenté comme global. Trois grands objectifs avaient été affichés. La stabilité politique et la sécurité, la prospérité partagée grâce à la libéralisation des échanges et le rapprochement entre les sociétés par la culture, l'éducation, la mobilité. Pour le Maghreb, cela s'est traduit très vite par des accords d'association avec l'UE et par la perspective d'une grande zone de libre-échange euro-méditerranéenne. 30 ans plus tard, le paysage a changé. Empilement de nouvelles politiques européennes, création de l'Union pour la Méditerranée, crise financière, printemps arabe, conflits régionaux, crise migratoire, guerre en Ukraine et aujourd'hui la guerre à Gaza. Dans cette deuxième partie, on va examiner ce qu'il reste des promesses de Barcelone, comment le partenariat Euromed s'est transformé et ce que cela signifie pour le Maghreb et pour l'Union européenne à l'heure du pacte pour la Méditerranée annoncé pour ce 30e anniversaire. On en parle avec vous, Hasnia Abidi, bonjour.
Bonjour Nadia Bachir.
Vous êtes, je le précise, politologue, spécialiste du monde arabe et directeur du CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen basé à Genève. Si on prend du recul, Hasnia Abidi, sur le plan économique, politique et social, qu'est-ce que le processus de Barcelone a réellement apporté aux deux rives et particulièrement au Maghreb? Est-ce qu'on est face à une histoire de demi-succès, de promesses non tenues ou les deux à la fois?
Oui, c'est un succès à demi-teinte. D'abord parce qu'il a réussi à instaurer une dynamique de négociation qui n'existait pas auparavant. Les réunions à Bruxelles entre des ministres de plusieurs secteurs, du commerce, de l'économie, du sport, de la culture, continuent, entre les ministres de la rive sud et les ministres de la rive nord, et le processus qui tout de même continue malgré surtout le blocage de processus de paix. Ce sont les divergences politiques qui entravent finalement ce dialogue. Mais le processus est lancé. J'en veux pour preuve la création plus tard, donc en 2008, de l'Union pour la Méditerranée.
Oui, on va y revenir tout à l'heure. On sait que l'UE est devenue le premier partenaire commercial du Maghreb, que les échanges ont augmenté, mais pour les pays maghrébins eux-mêmes, est-ce que les accords d'association ont vraiment permis un rattrapage, une montée en gamme industrielle, ou est-ce que les effets sont plus ambivalents que ça ?
Oui, c'est très difficile de faire un bilan qui est valable pour les... Par exemple, si on prend les trois pays, c'est difficile. La Tunisie a souffert en matière, par exemple, de perte de son tissu économique en raison de délocalisation de tout ce qui est industrie qui était présente, c'est-à-dire, par exemple, le textile. Aussi, les PME, les PMI ont souffert avec les accords d'association. Mais il y a d'autres aussi points positifs. C'est l'entrée, certes, un plafonné, mais de certains produits agricole sur le marché européen. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr, c'est toujours une répétition pour des accords un peu plus larges. En quelque sorte, l'Union européenne, avec des sanctions difficiles, parce que Bruxelles aussi est confrontée à la résistance des certains États pays européens qui ne veulent pas ouvrir les frontières à des produits venant des pays du Sud, c'est se familiariser avec les standards élevés du marché commun. Le Maroc a beaucoup bénéficié en revanche de ces accords d'association, et d'ailleurs c'est le pays qui a le statut le plus avancé par rapport aux autres pays. L'Algérie, elle est toujours, jusqu'à aujourd'hui, est toujours en négociation parce que c'est un cas différent. L'Algérie, tributaire de pétrole et du gaz, n'a pas d'autres produits, mais qui ne sont pas de la même quantité, elle n'est pas dans le même besoin que la Tunisie et du Maroc pour justement un accord constant avec l'Union européenne.
Au départ, Hassni Abidi, Barcelone liée, partenariat économique, droits humains et ouverture politique. Avec le recul, est-ce que ce volet a produit des résultats visibles au Maghreb ou bien est-ce qu'il est resté largement rhétorique derrière des priorités plus dures, sécurité, migration, énergie ?
Dès le départ, la question sécuritaire était un des paradigmes le plus important pour les Européens, c'est-à-dire nouer des relations importantes avec les pays du Sud pour justement trouver des accords sur la question migratoire et les questions sécuritaires, puisque le processus a été lancé dans une période très difficile sur le plan sécuritaire, soit pour l'Algérie, mais aussi pour la question migratoire. Ensuite, évidemment, la situation en Libye a aussi convaincu les Européens d'insister plutôt sur l'aspect sécuritaire. On peut dire que les autres, c'est-à-dire l'économie et le culturel, qui sont les deux corbeilles de processus euro-méditerranéen, n'ont pas eu le même intérêt, la même importance pour Bruxelles. Il y a aussi, dans des pays du Sud, malheureusement, une volonté plutôt d'être réhabilité, d'être légitimé par ces accords et par le processus euro-méditerranéen, beaucoup plus à travailler ensemble pour soit une zone de prospérité ou bien sûr pour la question de démocratisation et donner plus de place à la société civile. Et malheureusement, l'Union européenne aussi a fini par admettre cette réalité, c'est-à-dire qu'elle est moins ambitieuse qu'elle l'était auparavant.
Mais justement, à partir de ce constat, il faut regarder comment la relation s'est transformée parce qu'on n'est plus du tout dans le même contexte qu'en 1995. Après Barcelone, l'UE ajoute la politique de voisinage, puis l'Union pour la Méditerranée, puis un nouvel agenda pour la Méditerranée. Qu'est-ce que cet empilement nous dit de la manière dont l'UE perçoit sa relation avec le Maghreb et le Sud méditerranéen ?
D'abord, il y a une valeur pédagogique, mais aussi sur le plan empirique. La multitude d'initiatives venant des pays du Sud, parce que les pays du Sud n'ont jamais réussi à proposer des alternatives à la politique méditerranéenne de l'Europe, conçue par les Européens. Mais on parle de la politique méditerranéenne globale, la politique méditerranéenne rénovée, la politique européenne de voisinage suite aux printemps arabes et la nouvelle politique européenne de voisinage, vous avez cité l'Union pour la Méditerranée, c'était en 2008, montre une seule chose, c'est que finalement l'Europe constamment est appelée à mettre à jour ses politiques et ses initiatives. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que les pays du Sud changent, évoluent. Il y a de nouveaux impératifs, de nouvelles menaces, des nouveaux défis. Et chaque fois, elle revient. Par exemple, elle n'est plus dans cette histoire, par exemple, de société civile, de, par exemple, aussi la conditionnalité, hélas, abandonné du Parlement européen avant de signer un accord, elle est arrivée à une conclusion selon laquelle on ne peut pas changer nos voisins du Sud. Mais il faut absolument avoir des relations différenciées, basées sur des intérêts communs, ce qui explique d'ailleurs la politique européenne de voisinage.
Alors, pour ce 30e anniversaire, l'UE met en avant un pacte pour la Méditerranée censé actualiser justement la relation migration, énergie, investissement, stabilité macroéconomique. Alors, à la lumière de ces 30 ans, est-ce qu'on voit là une vraie inflexion ou plutôt une nouvelle formulation pour des priorités qui restent les mêmes ?
C'est une nouvelle initiative venant de l'Union européenne qui est consciente des limites de ce processus euro-méditerranéen, qui a connu, il faut le rappeler, 2008, c'était une union méditerranéenne. Le président Sarkozy voulait une union méditerranéenne. Et c'est Angela Merkel, l'ancienne chancelière de l'Allemagne, qui a refusé. Elle a dit « je refuse » parce qu'elle avait d'autres intérêts, c'est les pays de l'Est. Et cette idée de l'union méditerranéenne qui a été lancée lors de la campagne électorale de Sarkozy à Tanger et aussi à Toulon, elle était intéressante parce qu'on dit toujours que le meilleur communicant du processus euro-méditerranéen, c'est le président Sarkozy. C'est lui qui a parlé le plus de la question de la relation entre les deux rives. Aujourd'hui, oui, on est dans une situation complètement différente, c'est-à-dire avec des impératifs sécuritaires, mais aussi des impératifs économiques, et surtout que l'Europe, elle fait face à des défis internes et des défis venant de l'Est, et c'est pourquoi elle veut se concentrer sur, d'abord, l'aspect sécuritaire. Cette charte, elle est très importante, la charte méditerranéenne, elle pourrait être finalement adoptée par les deux rives. Donc, je ne dirais pas un échec, je dirais plutôt un essoufflement de processus euro-méditerranéen parce qu'on n'a plus ces leaders, ces chefs d'État des deux rives de la Méditerranée en mesure vraiment de proposer ou de créer